France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Quand on a tourné Pépé le Moko, il n'est pas étonnant que les studios américains vous proposent d'en faire un remake. Il est alors plutôt conseillé, artistiquement parlant, sinon de refuser frontalement, du moins de faire en sorte que ce projet n'aboutisse pas et de passer à une autre mise en scène. En 1957, au micro de René Jeanne et Charles Ford, Julien Duvivier racontait sa carrière pour la chaîne parisienne. Dans les quatre premiers entretiens, il avait évoqué ses débuts comme acteur, ses premiers films muets, assez édifiants pour certains. Pathé Film vient de restaurer en DVD et Blu-ray trois films de Julien Duvivier. La Belle Équipe, Voici le temps des assassins et Le jour se lève. De ces films et d'autres productions, il était question dans les quatre derniers entretiens, entretiens que vous allez pouvoir entendre dans un instant, dont les deux fins de La Belle Équipe, la fin optimiste qui ridiculise tout le film, regrettait Duvivier. De l'émouvant Jour se lève aussi et du très noir Voici le temps des assassins. Julien Duvivier évoquait aussi ses voyages, Fréhel, des films musicaux, Les bords de Marne, Carnet de bal, Maurice Jaubert, Don Camillo et Fernandel. Et in fine, il parlait de son grand projet, que l'on sait inabouti, tourner son troisième Poil de carotte. Première diffusion, mai et juin 1957.
La radiodiffusion télévision française présente Entretien avec Julien Duvivier, une émission de René Jeanne et Charles Ford avec la collaboration de Simone Beauvois. Aujourd'hui, cinquième entretien.
Au cours de nos entretiens précédents, nous avons déjà dégagé quelques caractéristiques typiques de votre activité. Et une des plus importantes, je crois, c'est votre goût des voyages. Vous l'avez souligné vous-même. La période de votre carrière que nous allons attaquer maintenant est, je crois, très fertile en voyage. Vous avez dû visiter un nombre impressionnant de pays.
J'en ai visité beaucoup pour tourner. Pour tourner, c'est-à-dire pour y tourner des extérieurs. Et j'en ai visité beaucoup dans l'espoir d'y tourner. C'est-à-dire que j'ai été dans différents endroits pour préparer des films que je n'ai pas tournés. Mais en effet, j'ai toujours été, je l'ai déjà dit hein, il y a quelque temps, toujours été attiré par les voyages, par le côté dépaysement que les milieux extérieurs pouvaient apporter au film. Vous vous rappelez que l'agonie de Jérusalem a été tournée en Palestine, que l'œuvre immortelle a été tournée en Belgique. Poil de carotte, il y a eu, je crois, le paquebot Tenacity qui m'a gardé en France, mais j'ai travaillé sur Maria Chapdelaine. Maria Chapdelaine nous a emmenés au Canada avec mon opérateur Tirard. Nous sommes partis un jour d'hiver et nous avons débarqué, comme des Parisiens ignorants des contingences, à Péribonka, dans le nord du Canada, là où se situe l'action du livre. Nous avions un petit par-dessus et nous ne nous doutions pas du tout de la température qu'il y faisait. Nous avons souffert effroyablement du froid. Nous avons remonté en traîneau une rivière glacée pour aller passer une nuit chez les bûcherons pour voir comment les bûcherons travaillaient et séjournaient tout l'hiver là-haut dans les bois. Et puis, nous sommes revenus après avoir tourné les extérieurs d'hiver et nous y sommes retournés en été avec la troupe. Alors, la troupe dans laquelle se trouvait Jean Gabin, qui, à ce moment-là, était un débutant. Puis, après Maria Chapdelaine, il y a eu la Bandera. La Bandera qui m'a mené, alors, au Maroc espagnol. C'est là que j'ai rencontré, à Ceuta, au cours des recherches que je faisais pour le film, le général Franco. Il m'a aidé dans tout ce que j'ai voulu faire. C'était un homme qui connaissait la littérature française sur le bout de l'ongle, et qui m'a parlé de tous les auteurs, qui m'a parlé de philosophie, qui m'a tenu sous le charme de sa conversation pendant une heure, et m'a donné naturellement toutes les autorisations que j'ai voulu. Il m'a considérablement aidé. C'est d'ailleurs pourquoi le film lui est dédié. Je rappelle que tout ça se passait avant la Révolution espagnole. Après la Bandera, je suis allé en Algérie pour tourner Golgotha. J'ai estimé, comme on l'a dit dans un entretien, dans les derniers entretiens, qu'il était inutile de rechercher le pittoresque là, extérieur et la vérité, puisque la vérité n'existait plus sur les lieux. Et nous avons reconstitué à Fort-de-Lot un immense décor qui représentait le temple de Jérusalem, et où nous avons tourné pendant 2-3 mois dans des conditions extrêmement difficiles, puisque j'ai eu jusqu'à 4000 figurants. J'étais tout seul avec deux braves régisseurs, et nous avions ces 4000 figurants que nous avions recrutés à Alger. Nous avions été même les chercher jusqu'en Kabylie. Et puis nous sommes tombés, le jour où nous avions amené ces 4000 personnes campées sur le terrain de Fort-de-Lot, nous sommes tombés sur des gens qui ne voulaient absolument pas se lever. J'avais fait venir le préfet un jour pour voir ce travail que je voulais faire, qui était une scène assez impressionnante, qui était le chemin de croix, le départ du chemin de croix. Il y avait 4000 personnes en scène, et le préfet m'a dit, mais ils ne se lèveront pas, c'était le ramadan.
Vous avez réalisé ce tour de force d'aller chercher véritablement au Canada, le Canada de Louis Aymond et de Maria Chapdelaine.
Sur place.
Sur place, d'aller chercher au Maroc espagnol, le Maroc espagnol de la Légion étrangère espagnole.
Avec la Légion.
Avec la Légion même de Macorlan. Et vous avez donné la même impression de réalité avec une Palestine que vous aviez découverte en Algérie. Ce sont vraiment de ces miracles dont seul le cinéma est capable.
Mais ça n'a pas été terminé, car je suis retourné en Algérie pour Pépé le Moko, bien sûr.
Est-ce que vous me permettez d'évoquer un petit souvenir, mais qui, pour moi, me paraît extrêmement intéressant, parce qu'il contribue à montrer tout ce que la parole a pu apporter, et le son ont pu apporter, au spectacle cinématographique. C'est dans Pépé le Moko, la scène où Fréhel, la chanteuse réaliste, chante en accompagnant une chanson d'elle enregistrée au gramophone et pendant que le disque se déroule. On a cette impression vraiment très étonnante de la voix de Fréhel au naturel doublant la voix de Fréhel mécanique.
C'est
une trouvaille, je crois, qui n'avait encore été jamais réalisée au
cinéma.
Elle disait
que j'étais jeune, enfin, je ne me rappelle plus le dialogue, il était beaucoup mieux que ça, puisqu'il était de Janson, et elle disait, tiens, quand je chantais, là, et puis elle mettait un disque qu'elle avait censément enregistré dans sa jeunesse, n'est-ce pas, et elle chantait dessus.
C'est ça,
prise par la situation. Ce qui fait qu'elle chantait, avec le physique qu'elle avait à l'époque, c'est-à-dire, elle était devenue très forte, très grosse, n'est-ce pas.
L'énorme femme massive.
Et puis, elle chantait avec la voix d'une femme qui était restée jeune. Et puis, après ça, mon Dieu, mais il y a eu l'Allemagne, bien entendu, il y a eu l'Italie, puisqu'une partie de Carnet de Bal, des extérieurs du moins, ont été tournés en Italie. Et puis, il y a eu Hollywood.
Mon premier séjour à Hollywood.
J'étais engagé par la Metro-Goldwyn-Mayer pour faire un remake de Pépé le Moko. Et ils avaient engagé en même temps Mireille Balin, qui jouait le principal rôle féminin dans le film. Et lorsque je me suis rendu à Hollywood, j'avais un contrat pour ce film-là, pour un seul film, j'ai rencontré sur le bateau King Vidor. Nous avons fait connaissance, et je lui ai raconté ce que j'allais faire. King Vidor a été assez gentil pour me dire à ce moment-là, « Ne faites jamais un remake. Si vous allez à Hollywood, ne tournez pas un film que vous avez déjà tourné. » King Vidor était mon aîné, et en talent et en âge, et j'ai fait très attention à ce qu'il m'a dit. Et en arrivant à la métro, je n'ai eu qu'un but, c'était d'essayer de ne pas tourner Pépé le Moko. Et alors, comme ils avaient acheté les droits à la Metro-Goldwyn-Mayer, il fallait bien en faire quelque chose. Et alors j'ai trouvé que Charles Boyer, qui avait toujours été un petit peu jaloux, mais gentiment, de Jean Gabin, qui a toujours aimé jouer les rôles de dur, n'est-ce pas? Charles Boyer avait un vieux contrat avec Walter Wanger et ne trouvait pas de sujet. Je lui ai dit, mais il y a un merveilleux sujet. Et Walter Wanger a acheté à la Métro les droits de Pépé le Moko et Charles Boyer l'a tourné sous le nom de Casbah. Et moi, j'ai pu faire autre chose.
Et quand on voit Casbah, on s'aperçoit que vous avez eu raison de ne pas vouloir le refaire.
Oui, mais il y a une chose curieuse quand même, c'est que le Pépé de Moko, évidemment, de Julien Duvivier, était un très grand film. Le Casbah était un pauvre film à côté. Mais HLB m'a toujours dit, il me l'a répété plusieurs fois, qu'il estimait que Charles Boyer était plus le personnage que Jean Gabin.
Je ne sais pas, j'ai jamais rencontré M. HLB, alors je ne sais pas.
Lui non plus, décidément, vous ne voyez jamais les auteurs.
Si, si, j'en ai vu quelques-uns, j'en ai vu beaucoup, j'ai même gardé beaucoup de relations avec Macorlan, avec Vildrac, avec tous ces gens-là.
Vous avez tourné Pépé le Moko sans connaître l'auteur.
Je ne sais pas du tout qui est M. HLB.
Et c'est quand vous avez pu vous dégager du remake de Pépé le Moko que l'on vous a aiguillé sur un film musical.
On m'a dit, qu'est-ce que vous voulez tourner alors? J'ai dit, mais je ne sais pas, moi je veux tourner, voulez-vous que je vous fasse un scénario original? J'ai dit, non, mais nous n'avons pas besoin de ça, nous avons ici des écrivains et nous avons des propriétés littéraires en quantité industrielle. Et en effet, on m'a envoyé dans mon bureau mais des volumes entiers dans lesquels était inscrite la liste des propriétés littéraires de la Metro-Goldwyn. Et j'étais absolument sidéré de voir que ces gens-là possédaient les trois quarts de la littérature mondiale.
Oui, bien sûr.
C'est absolument extraordinaire. Et c'est là que j'ai rencontré certaines choses. On m'a donné des scénarios à lire, on m'a donné deux scénarios merveilleux. Un scénario qui n'a jamais été tourné, qui s'appelle « Les 40 jours de Musa Dagh » de Franz Werfel, qui est un scénario absolument extraordinaire et qu'ils ne veulent pas le faire à cause de la Turquie, parce que c'est une question diplomatique, c'est la guerre des Arméniens contre les Turcs,
ah oui,
n'est-ce pas? Et puis un autre scénario, mais qui a été tourné depuis et dont on m'a dit, ah non monsieur, celui-là, vous ne pouvez pas le tourner, mais vous pouvez le dire, car c'est un bon film. Sûrement, c'était Goodbye Mr. Chips, qui a été un film extraordinaire.
Gros succès, monsieur.
Mais j'ai eu aussi en main quelques scénarios qui avaient été faits par des metteurs en scène, par exemple un scénario de Fritz Lang. Je me souviens très bien avoir lu un scénario de Fritz Lang sur la page de garde duquel il était écrit « Messieurs, les producteurs sont priés de lire également la colonne de gauche ». Parce qu'il faut vous dire que la page est séparée en deux. À gauche, on met l'action et à droite, on met le dialogue. Et les producteurs, qui ne sont pas des gens qui lisent beaucoup, trouvaient plus simple de lire le dialogue et ils pensaient qu'ils connaissaient l'histoire. Monsieur Fritz Lang leur disait que le film n'était pas dans la colonne de droite, mais dans la colonne de gauche.
Ce qui est vrai.
Et c'est d'ailleurs depuis ce temps-là que, en ce qui me concerne, il n'y a plus de gauche ni de droite et moi j'écris mes scénarios à la suite, sans séparation.
Et alors finalement, qu'avez-vous tourné?
Eh bien, j'ai rencontré là un homme qui venait de tourner Symphonie inachevée, qui était un film qui venait d'avoir un énorme succès, qui était un merveilleux film, c'était Walter Reich.
L'auteur.
Walter Reich était autrichien, et c'était un homme qui parlait français admirablement, et un garçon d'une gentillesse considérable. Et nous étions liés déjà avant cela. Et Walter Reich m'a dit, mais nous devrions faire un film sur Johann Strauss. C'est une histoire merveilleuse. Et nous l'avons proposé à la Métro. Ils ont dit oui, nous sommes mis au travail. Nous avons fait un scénario. Et puis nous avons attendu. Et on nous a dit, ce scénario est merveilleux. C'est un film extraordinaire. Et on nous a tout transformé. Nous avons lutté comme des démons, mais finalement, nous avons été obligés d'en passer par les fourches codines du producteur, si j'ose dire, qui était M. Bernie Heimann, un homme bien charmant d'ailleurs, mais enfin qui n'avait aucune idée de ce que c'était que la vie de Johann Strauss, ni que c'était qu'un scénario. Et alors, il nous a fait faire un scénario à sa manière, et ce scénario a donné toute la ville danse, ce qui s'appelait The Great Waltz, c'est-à-dire la Grande Valse, n'est-ce pas? Il y a eu, dans ce film n'a pas eu d'histoire, il était merveilleusement enregistré au point de vue musical. Je crois que c'est le plus bel enregistrement musical qu'on ait fait à l'époque. C'était absolument sensationnel comme musique. Et puis, il y avait dedans une femme qui avait une voix absolument extraordinaire. J'ai toujours détesté les chanteuses, moi, et les chanteurs. Et pourtant, il en fallait une. Il en fallait une, là. Et alors, je dis, mais qui va jouer ce rôle-là? Et alors, le producteur, Bernie Heimann, un jour, dans son bureau, m'a dit, écoutez, je vais vous faire entendre quelqu'un. Et il m'a mis un disque sur un phono, et j'ai entendu une femme avec une voix extraordinaire. Oh, mais je dis, mais si on pouvait avoir cette femme-là, qui est-ce? Et il m'a dit, mais vous allez le savoir, il a ouvert la porte, et Mme Militza Korjus était de l'autre côté. C'était une énorme personne qui pesait bien 110 kilos. Et alors, elle était charmante, mais elle était là depuis 5 ans. Depuis 5 ans, on l'avait engagée sans la connaître sur sa voie, et on n'avait pas pu l'employer parce qu'elle avait un physique, elle était énorme, n'est-ce pas ? Elle était bouffie de tous les côtés. Si bien que j'ai eu le courage de dire oui, à condition qu'on la fasse maigrir. Et on l'a fait maigrir, et en 2 mois, cette personne a perdu, je ne sais pas, 40 kilos. Et elle était ravissante.
Elle était ravissante.
Et une voix absolument...
Et elle était la femme de sa voix.
Eh oui, une voix extraordinaire, absolument extraordinaire.
Et vous avez eu là une réussite complète. C'est un des films musicaux les plus réussis de l'époque, à mon humble avis.
Certainement.
La radiodiffusion télévision française vous a présenté Entretien avec Julien Duvivier, une émission de René Jeanne et Charles Forbes.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 13 mai 1957. Une semaine plus tard, sur la même chaîne parisienne, les auditeurs avaient rendez-vous avec le même Julien Duvivier.
La radiodiffusion télévision française présente Entretien avec Julien Duvivier, une émission de René Jeanne et Charles Ford, avec la collaboration de Simone Beauvois. Aujourd'hui, 6e entretien.
Cher ami, la semaine dernière, vous avez bien voulu évoquer pour nous et pour les auditeurs vos nombreux voyages cinématographiques. Mais en même temps, vous avez laissé entendre qu'il y avait eu dans votre vie des voyages qui n'avaient pas eu de conclusion professionnelle, si j'ose dire. Voudriez-vous avoir la gentillesse aujourd'hui de nous en parler un petit peu ?
Moi, je veux bien tout ce que vous voulez remarquer. Mais enfin, je crois que les voyages n'intéressent que ceux qui les racontent. Mais enfin, puisque je suis là pour ça... Je puis vous dire en effet que j'ai fait énormément de voyages, en plus de ceux que j'ai fait pour le cinéma, mais même les voyages qui n'ont pas eu de conclusion cinématographique ont toujours été faits dans l'intention de faire un film. D'abord, par exemple, je suis allé en 1933, au Spitzberg, et j'en ai rapporté un scénario qui s'appelait « Six hommes et l'enfer ». Et c'était une histoire qui m'avait été inspirée par la vue d'une concession soviétique qui se trouve dans le Spitzberg, qui est une mine de charbon à ciel ouvert, et dans laquelle vivaient 200 hommes dans une atmosphère absolument insensée avec des contrats de 5 ans. J'en ai rapporté un scénario. Puis, ce scénario d'ailleurs n'a jamais été tourné en raison des difficultés matérielles que ça présentait. Il est toujours dans mes tiroirs, mais il y en a bien d'autres aussi. En 1939 alors, un peu avant la guerre, je suis parti pour Bali. Je voulais aller tourner « Sang et volupté » à Bali, qui est un merveilleux roman de Madame Vicky Baum. J'en avais acquis les droits, je suis parti pour Bali, mais malheureusement, la déclaration de guerre est survenue alors que je venais de quitter Singapour, je me trouvais dans le détroit de Malacca une nuit et j'ai entendu, je me rappelle, sur le pont avec une petite radio que j'avais, une radio portative, j'ai entendu que l'Angleterre venait de déclarer la guerre à l'Allemagne. Alors nous avons débarqué le lendemain à Batavia, j'ai été voir le consul de France, je lui ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire, et le consul de France nous a envoyé balader, nous a fort mal reçus, a dit que si la guerre se déclarait avec la France, il nous conseillait fortement d'aller à Saïgon, nous n'avions qu'à attendre la fin de la guerre, nous verrions bien. Et le lendemain, je me trouvais alors à Yogyakarta, où nous avons appris que la France avait suivi, que la déclaration de guerre était effective, et je suis rentré en avion, grâce à la KLM.
Tout ça, cher Duvivier, ce sont des voyages lointains, mais j'ai le souvenir d'un voyage beaucoup plus rapproché, beaucoup plus facile, que vous avez fait sur les bords de la Marne et d'où vous avez rapporté un excellent film.
qui s'appelait La Belle Équipe.
Oui, oui, La Belle Équipe, mais vous ne m'avez pas voulu laisser raconter que je suis allé à Tahiti aussi pour faire un film, Le Mariage de Loti. Et que j'y ai eu bien des aventures, puisque nous sommes partis en avion, que nous sommes tombés dans le Pacifique, et que nous avons passé une nuit perdue dans la dernière île du groupe des Samoa, où nous avons assisté à un enterrement d'un paysan samoan qui venait d'être tué dans la journée, quelque chose d'absolument sensationnel. Nous avons été recueillis par un aviso de la marine américaine qui venait de Pago Pago, et j'ai passé même, à la suite de ça, une nuit dans la maison de Robert Louis Stevenson.
Bravo. Ah. Tout ça aurait pu faire un excellent film, un très beau film, mais ça ne l'a pas fait. Voilà. Alors revenons sur les bords de la Marne, le film a été fait.
Revenons. Oui, en effet, nous avons la Belle Équipe a été tournée sur les bords de la Marne, en effet, près de la Varenne. Ça a été les débuts de Viviane Romance, qui était ravissante, qui l'est toujours d'ailleurs, et que j'avais trouvé dans la figuration d'un film qui se tournait dans le studio d'à côté pendant que je tournais La Bandera. Et je lui avais confié un tout petit rôle dans La Bandera. Et je lui ai dit, tiens, mais vous me paraissez avoir un avenir devant vous. Je vais vous faire un petit rôle. Et dans La Belle Équipe, nous l'avons lancé. L'histoire de La Belle Équipe, c'est l'histoire de tous les films, naturellement, avec ses difficultés de réalisation, comme tous les films. Mais il y a une chose particulière qui s'est passée et qui m'a pris très long sur le public cinématographique et qui m'a mis un peu en éveil. Le film, à sa sortie, il s'était alors au Paris, au cinéma Le Paris, sur les Champs-Élysées. Le film n'a eu aucun succès. Le public ne venait pas. Malgré la distribution, qui comprenait Jean Gabin, qui comprenait Émos, qui était un acteur populaire, n'est-ce pas, à
l'époque. Vanel.
Et puis Vanel, tout ça. Le film n'a pas marché. Le producteur, M. Harris a décidé que c'était parce que le film ne finissait pas bien. Il avait dit, si le film se terminait bien, le film est charmant, s'il se terminait bien, il aurait attiré du monde, vous pouvez être absolument sûr. Et j'étais tellement énervé de cette histoire que je lui ai dit, écoutez, nous allons faire un essai. Il est encore temps, nous allons retourner une autre fin, et une fin qui sera une fin heureuse, comme celle que vous voulez. C'est-à-dire une fin qui n'aura aucun rapport avec le film, qui dénaturera tout le film, mais qui sera une fin heureuse. Nous avons donc tourné une autre fin, en utilisant certaines scènes du premier film, et en ajoutant une scène que nous avons tournée spécialement. Et puis, nous avons été projeter ce film un soir dans un cinéma de La Varenne, précisément. Nous avons prévenu le public, et nous lui avons dit, voilà, ce film comporte deux fins qui vont vous être projetées successivement. L'une est une fin heureuse, qui est la fin où tout s'arrange, et l'autre est la fin véritable du film où rien ne s'arrange. Naturellement, nous avons une certaine prédilection pour une de ces fins, nous ne vous dirons pas laquelle, nous vous laissons à votre choix. Voilà des cartes, vous serez bien aimable de donner votre opinion sur les cartes qui vous sont distribuées. Et j'avais donné ma parole au producteur que la fin qui serait choisie serait celle qui serait désormais la fin du film. Il y eut 800 personnes dans la salle ce soir-là, 600 ont donné leur carte, 450 ont été pour la fin qui dénaturait complètement le film, c'est-à-dire la fin heureuse, et à peine 150 ont été pour la fin véritable, la fin logique, et c'est depuis ce temps-là, le film passe, je l'ai revu encore à la télévision, plusieurs fois dernièrement, il passe avec cette fin qui ridiculise tout le film.
Voilà, évidemment, qui est un petit peu décourageant.
Vox Populi.
Je le regrette beaucoup.
Et nous en arrivons, enfin un peu rapidement, bien sûr, nous en arrivons à un film extrêmement important pour vous, pour le cinéma français, c'est Carnet de balles.
Oui.
On dit souvent que Carnet de balles est le premier film à sketch qui ait été fait en France.
Oui, j'ai lu ça souvent et on me dit que Duvivier est le père des films à sketch. Ce n'est pas vrai, attendu que le premier film à sketch qui a été fait a été « If I had a million », si j'avais un million.
Oui, mais pas en France, pas en France.
Pas en France, non. Mais en tout cas, le film à sketch a été inventé en Amérique,
oui.
N'est-ce pas? Moi, je n'ai repris ça. D'ailleurs, je ne pensais pas du tout à si j'avais un million. J'ai simplement eu un jour eu cette idée d'une femme qui recherchait les hommes qu'il avait aimés dans sa jeunesse, n'est-ce pas ?
Il faut dire d'ailleurs que c'est uniquement sur le plan formel qu'il y a une ressemblance. La coupe dans les sketchs, parce que dans l'esprit du film, il n'y avait aucun rapport avec If I Had a Million.
Ah oui, naturellement, absolument aucun rapport. Et puis d'ailleurs, le côté humain était beaucoup moins sensible, n'est-ce pas ?
Et vous aviez réuni autour de vous pour Carnet de Bal une équipe de collaborateurs absolument oui. de première qualité.
Oui, j'avais fait une société avec Bord, Jouvet, Marie-Belle, Blanchard, Fernandel, Pierre-Richard Wilm, Rému. Et cette société est toujours d'ailleurs en activité puisque chaque année, même après 20 ans, le film continue à produire des dividendes oui, aux actionnaires dont la plupart sont morts.
Vous venez de parler là de vos collaborateurs acteurs.
Et Françoise Rosé aussi.
Et Françoise Rosé.
Mais vous aviez une collaboration littéraire vraiment de premier ordre avec Janson, si je me souviens bien, Jean Sarment.
Oui, j'ai voulu donner à chacun des sketchs un ton particulier selon les acteurs qui interprétaient. Et alors, j'ai pris Henri Janson, puis Jean Sarment, qui était plus tendre, plus sentimental que Janson, et puis Bernard Zimmer, qui était entre les deux.
Mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'un carnet de bal avait eu un autre mérite, celui d'avoir la musique de Maurice Jobert, cette valse qui, encore aujourd'hui, est tellement séduisante et qui sert d'ailleurs d'indicatif à notre série d'entretiens. Avez-vous conservé un souvenir particulier de votre collaboration avec Maurice Jobert ?
Oh, Maurice Jobert était un homme d'une sensibilité extrême et d'un talent considérable. Nous avons été terriblement touchés par sa mort pendant la guerre. Et Jobert avait écrit cette valse pour un autre film. Il l'avait déjà utilisée, mais le film avait passé inaperçu. Il me l'a apporté quand je lui ai parlé de ce que je désirais. Et j'ai trouvé que cette valse allait tellement bien à l'allure mélancolique et un peu désabusée que je voulais donner au film. Et il y a un détail qui peut intéresser certains techniciens, et la façon dont cette valse a été enregistrée. Elle avait dans le film un caractère tout à fait étrange, un peu fantastique. Et nous avons obtenu ce résultat en procédant de la façon suivante. Jobert a écrit sa valse, puis il l'a réécrit à l'envers, c'est-à-dire en partant de la dernière note et en remontant à la première. Et elle a été enregistrée de cette façon-là.
C'est ce qui donne ce rythme très particulier à cette valse.
Ce qui fait que toutes les attaques et toutes les finales étaient inversées, et ce qui donne ce côté extraordinaire que la valse avait dans le film.
Oui, ce sont là les éléments, évidemment, d'un très grand succès. Carnet de bal a marqué pour vous, je crois, une étape importante dans votre carrière et aussi une étape dans l'histoire du cinéma français.
Je crois que c'était un film qui avait beaucoup certaines qualités. Les sentiments qu'il évoquait touchaient un peu tout le monde.
C'est un film qui reste, et que, quand il passe encore maintenant, eh bien les spectateurs vont le revoir et ceux qui ne l'ont pas vu vont le voir sans être déçus, ce qui est très important.
Ben, si je veux bien le croire, c'est déjà quelque chose. Mais en tout cas, ce n'est pas celui des films que je préfère. Je n'aime pas beaucoup les films que j'ai tournés. Vous me direz que je ne suis pas le seul. Mais enfin, le film que je préfère, si j'ai une petite tendresse pour le deuxième poil de carotte que j'ai fait, j'ai surtout une petite tendresse pour le film La fin du jour que j'ai réalisé avec Charles Pack. Je trouve que j'avais mis là-dedans tout ce dont je vous ai parlé dans mes précédents entretiens, c'est-à-dire mon amour du théâtre. Et je me souviens que lorsque le film est sorti, il a subi une critique d'une violence épouvantable. Je me rappelle notamment un article de M. Pierre Wolf, dans lequel M. Pierre Wolf écrivait que ce film était une indignité, que je ne connaissais rien aux sentiments que j'évoquais, que je montrais là-dedans mon mépris du théâtre, etc., etc. C'était un article qui démolissait le film absolument de A jusqu'à Z.
L'action de La fin du jour se passait dans une maison de retraite de comédiens.
Exactement, oui.
Et c'est ça qui, je crois, avait choqué Pierre Wolf.
Il n'était pas comédien, Pierre Wolf.
Non,
alors.
Mais il croyait qu'il connaissait les comédiens car il avait une longue carrière d'auteur dramatique derrière lui.
Eh bien, il ne les connaissait pas car à la suite de son article, j'ai reçu une lettre de M. Victor Boucher, qui était le président
de
l'Union des artistes, et une lettre qui était signée par les comédiens de Pont-aux-Dames qui m'ont invité à un petit dîner que nous avons fait à Pont-aux-Dames. Et oui, ils m'ont reçu, on a projeté le film et ils m'ont parlé si gentiment et je crois que je ne me suis pas trompé en parlant du théâtre de la façon dont nous l'avons fait, Charles Pack et moi.
Cette approbation valait mieux pour vous que la critique de Pierre Wolf.
Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne La fin du jour, je crois que c'était vraiment un des films les plus émouvants que vous ayez fait et on peut dire que Victor Francène, Louis Jouvet, Michel Simon n'ont jamais fait mieux que dans ce film-là.
La radiodiffusion télévision française vous a présenté Entretien avec Julien Duvivier, une émission de René Jeanne et Charles Ford.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 20 mai 1957. Une semaine plus tard, Charles Ford et René Jeanne retrouvaient Julien Duvivier pour la suite de leurs entretiens.
La radiodiffusion télévision française présente Entretien avec Julien Duvivier, une émission de René Jeanne et Charles Ford, avec la collaboration de Simone Beauvois. Aujourd'hui, 7e entretien.
La semaine dernière, cher Duvivier, vous nous avez, avec La fin du jour, mené jusqu'à la veille même de la guerre, car La fin du jour, si je ne m'abuse, est de fin 38, début de 39.
Oui, j'ai fait encore un film qui s'appelait La charrette fantôme, qui était un remake alors du film muet qu'avait fait Sjöström dans le temps. Après cela, alors, j'étais parti en voyage à Bali et j'y suis rentré. Je suis rentré à Palaga, puisque la déclaration de guerre, comme je vous l'ai dit, m'avait trouvé là-bas à Java. Et en rentrant, nous nous sommes mis à la disposition du ministère de l'Information, et qui était dirigé par Jean Giraudoux.
Exactement.
Et Jean Giraudoux nous a dit, écoutez, essayez de faire un film de propagande, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter de mieux. Et avec Achard et Spack, nous sommes allés dans ma maison de Septon, nous nous sommes enfermés et nous avons écrit un scénario qui s'appelait « Un tel père et fils », qui était l'histoire d'une famille française de 1870 à nos jours, et qui avait la prétention de montrer que les Français étaient de braves gens, qui ne voulaient rien, ils n'avaient pas d'esprit de conquête, ils n'étaient pas guerriers, ils n'étaient pas belliqueux, ils n'étaient guerriers que si on les provoquait. Et qui était un film charmant dans lequel il y avait Jouvet, Morgan, Rému. C'est en tournant Un tel père et fils que nous avons fait à Nice que le producteur italien Barattolo est venu me trouver en me demandant de venir rencontrer Vittorio Mussolini. J'avais déjà rencontré le père Mussolini à l'issue de Carnet de bal. Je rencontrais maintenant le fils, je l'ai rencontré à San Remo, en 1940, au début de 40.
Vittorio Mussolini était l'homme cinéma de la famille.
Et c'est un personnage avec qui j'ai eu une heure de conversation. Il m'a raconté un scénario qu'il voulait faire, une idée qui était effroyablement fasciste, et je lui ai fait comprendre que je n'étais pas libre à l'époque, enfin que je n'étais pas très attiré par ça, et nous nous sommes quittés, le personnage étant fort désagréable d'ailleurs, nous nous sommes quittés en froid. Mais mes relations italiennes ne se sont pas arrêtées là, parce que quelques jours d'après, je recevais un coup de téléphone un soir d'André-François Poncet, qui était ambassadeur de France à Rome à ce moment-là. Et j'étais surpris d'avoir monsieur l'ambassadeur au téléphone, et il me dit, écoutez, vous connaissez naturellement la situation, il est possible que l'Italie rentre en guerre, tout ce que les Français peuvent faire dans le but de retarder ou de modifier cette décision que va prendre Mussolini est utile. Il y a à l'heure actuelle le maréchal Balbo qui est
très influent. Balbo voudrait faire un film et je crois que ce serait utile. Est-ce que vous voudriez le rencontrer?
Il était à ce moment-là gouverneur de la Libye, si je ne m'abuse.
Gouverneur de la Libye et maréchal de l'air.
Et maréchal de l'air.
C'est ça. Et alors, je suis allé... Un jour, on est venu me chercher à la frontière avec des motocyclettes, des autos. J'avais l'air d'un personnage officiel, j'étais très fort impressionné. Et j'ai rencontré à Gênes Balbo, qui m'a sauté au cou, qui m'a appelé Caro du Vivier, n'est-ce pas ? Et nous avons fait un déjeuner fort impressionnant avec le préfet de Gênes, avec le directeur du journal de Balbo, qui était le courrier de Padoue, et puis deux ou trois autres personnages influents de son entourage. Ce sont ces mêmes personnages-là qui d'ailleurs ont été tués dans un accident d'avion, un accident vraisemblablement provoqué.
Quand il est retourné rejoindre son poste.
Et j'ai encore devant moi la lettre que m'a envoyée Balbo. Nous avions trouvé un scénario que nous avons écrit avec Pierre Rocher, sur lequel il était d'accord que nous devions tourner à Tripoli. Et j'ai la lettre dans laquelle il me dit, il me donne rendez-vous le 28 mai, il me donne rendez-vous à Tripoli pour le mois de juillet, pour le premier tour de manivelle. Et on sait que quelques jours après, la guerre était effective et nous avions beaucoup de poignards dans le dos. Les événements se sont précipités et à ce moment-là, j'ai pu mettre à exécution un contrat que j'avais signé au début de 1939 et qui m'engageait à aller faire deux films en Amérique. Et que j'avais demandé à l'information si je pouvais signer ce contrat. Il m'avait dit oui, mettez simplement une réserve. Le contrat ne prendra de valeur que le jour où le gouvernement français donnera à M. Duvivier l'autorisation de quitter le territoire, à toutes fins utiles. Et alors, j'ai demandé à cette époque-là, qu'est-ce que je dois faire? Et M. Henri Torres, qui s'occupait à ce moment-là du ministère de l'Information,
il dirigeait le service du cinéma au ministère de l'Information.
Eh bien, Henri Torres m'a dit, mon cher Duvivier, partez donc et tâchez de faire de la propagande là-bas, si vous le pouvez. Et nous étions même partis avec le projet de faire un film sur Clémenceau. D'ailleurs, ce projet n'a pas eu de suite parce que les Américains n'en ont pas voulu. Je suis parti au début de juillet parce que je me souviens très bien que le 13 juillet, nous sommes réunis avec Darius Milhaud,
oui.
Jules Romain et Kessel le 13 juillet, qui était la veille de notre arrivée, le 14 juillet, qui était la veille de notre arrivée à New York, et nous avons pris un verre à la santé de la France.
Sur le bateau.
Et quel est le premier film alors que vous avez tourné à Hollywood, puisque vous n'avez pas pu faire le Clémenceau?
Eh bien, j'avais été engagé par la Columbia, par M. Paul Gretz, qui est toujours producteur ici en France, et par la Columbia. Mais M. Paul Gretz n'a pas exécuté le contrat qu'il m'avait fait à cette époque, et c'est Alexandre Corda, qui avait une maison en Amérique, qui l'a repris. Alors, je me suis mis au travail pour Corda et j'ai fait... Il désirait refaire Carnet de balles. Je lui ai dit que je ne voulais pas refaire Carnet de balles, que je n'avais aucune intention de le faire, que j'en avais d'ailleurs pas le droit puisque j'avais fait une société, que ce film appartenait à cette société. Mais nous avons fait un scénario qu'on a cru être un remake de Carnet de balles qui s'appelait Lydia, qui était interprété par Merle Oberon, dans lequel a débuté Joseph Cotten, et qui était une histoire... vraiment très différente, puisque c'était l'histoire d'une femme âgée qui évoquait les amours qu'elle avait eus dans sa jeunesse, mais qui les revivait. Alors on les voyait, par conséquent, ce qu'on voyait, c'était la jeunesse de cette jeune femme, tandis que Carnet de balles, c'était une femme déjà d'un certain âge qui retrouvait des hommes qu'elle avait aimés dans sa jeunesse et les voyait vivre à l'heure qu'il était à ce moment-là.
Oui, la différence est évidemment sensible.
Considérable. Puis j'ai fait un autre film qui s'appelait Flesh and Fantasy. Nous l'avons même produit. J'ai même été producteur avec Charles Boyer.
C'est Obsession en français, c'est bien ça, n'est-ce pas?
Flesh and Fantasy. D'abord, j'ai fait d'abord Tales of Manhattan, c'est-à-dire Conte de Manhattan.
Qui était encore un film à sketch.
C'était un film à sketch encore, oui. On s'est adressé à moi parce que, naturellement, on se disait, il y connaît un petit bout dans ce genre de film. Et j'ai fait ce film, qui a été d'ailleurs le premier film américain qui a été projeté en France à la Libération.
C'est vrai.
N'est-ce pas?
Le midi de la France.
On m'a envoyé une coupure de journal, ce que Henri Janson, d'ailleurs c'est la première lettre que j'ai reçue en Amérique après la Libération, c'était une critique du film qui était passé au Moulin Rouge, je crois.
c'est bien possible.
Et alors, il y avait là-dedans Charles Laughton, il y avait Charles Boyer, il y avait Victor Francen, il y avait Rita Hayworth, Paul Robson, il y avait Ginger Rogers, Henry Fonda, César Romero, Thomas Mitchell, enfin une distribution.
Toutes les étoiles
américaines. Puis Flesh and Fantasy, que j'ai alors, comme je disais tout à l'heure, produit avec Charles Boyer. Je suis devenu producteur à Universal. Et dans ce film, il y avait également Boyer, Barbara Stanwyck, Edward Robinson et quelques autres.
Vous avez fait aussi finalement un film de propagande.
J'ai fait un film de propagande qui s'appelait L'imposteur avec Gabin. Avec Jean Gabin, ce film se passait en Afrique équatoriale. Et c'était une histoire un peu mélodramatique, mais qui était un film de propagande destiné à l'Amérique et non pas à la France, n'est-ce pas? Attendu que ça se passait dans un milieu de soldats français et que, naturellement, tous les soldats français parlaient américain.
Mais ce qui était le plus drôle, c'est quand on a présenté le film en France après la guerre, c'est d'entendre les deux fameuses allocutions, celle du maréchal Pétain et celle du général de Gaulle, en anglais.
Et comment vouliez-vous qu'elles soient pour des Américains?
Bien entendu.
Vous avez donc eu, pendant toute la durée de la guerre et votre séjour à Hollywood, une activité extrêmement régulière.
Oui, je fais un film chaque année.
Et
la dernière année, j'ai préparé mon départ.
Et vous étiez encore en Amérique quand la guerre a pris fin.
Je me souviens d'ailleurs, ça a été une nuit bouleversante, puisque j'étais en train de dormir un soir de juin 1944, lorsque j'ai entendu le téléphone sonner. J'ai décroché et au bout du fil était mon ami Jean Lévi-Strauss, qui est mort là-bas malheureusement. Et alors Lévi-Strauss me dit « Prenez la radio, il débarque, on entend le débarquement, c'est formidable !» Et c'est là que j'ai entendu le débarquement des troupes américaines en Normandie.
Je crois me souvenir que vous n'êtes pas revenu en France tout de suite. Vous êtes resté encore quelque temps en Amérique, est-ce exact?
Oui, c'est exact, et ce n'est d'ailleurs pas de ma faute, car vous pensez bien que j'étais, et pas seulement moi, mais tous les camarades qui étaient là-bas, dans un état de surexcitation extraordinaire. Nous n'avions qu'une pensée, c'était de rentrer. Et malheureusement, les autorités ne nous donnaient pas la permission de nous embarquer. Il n'y avait pas de bateau, d'ailleurs. Alors, pendant cette année, avec l'intention de faciliter ce départ, j'ai signé avec un contrat avec Alexandre Corda, qui lui était rentré en Angleterre et qui m'appelait en Angleterre. C'est grâce à lui que j'ai pu prendre place dans un convoi qui allait à Southampton. Je suis donc débarqué en Angleterre pour travailler au studio de la London Film à Londres. Mais je n'y ai pas tourné, car le premier film que j'ai fait à mon retour a été un film qui s'appelait Panique et qui était tiré d'un roman de Georges Simenon qui s'appelait Les fiançailles de Monsieur Hir. Ce film avait été d'ailleurs fait en collaboration entre la London Film et la société française Regina. Et je l'avais fait avec mon collaborateur des meilleurs jours qui était Charles Spack.
Ainsi, mon cher Duvivier, se terminait votre période d'exil correspondante à la guerre. Non pas en Angleterre, comme vous l'aviez tout d'abord pensé, mais en France, en faisant un film de collaboration franco-anglaise.
La radiodiffusion télévision française vous a présenté Entretien avec Julien Duvivier, une émission de René Jeanne et Charles Forbes.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 27 mai 1957. Sans attendre, voici le 8e et dernier entretien de cette série, diffusé pour la première fois sur la chaîne parisienne le 3 juin 1957.
La radiodiffusion télévision française présente Entretien avec Julien Duvivier, une émission de René Jeanne et Charles Ford avec la collaboration de Simone Beauvois. Aujourd'hui, 8e et dernier entretien.
qu'on peut vous demander quelque chose, cher ami? Parce que vous avez fait de nombreux films en collaboration, tout au moins pour la partie scénario, bien entendu, avec Charles Spack, avec Henri Janson, avec d'autres scénaristes, d'autres adaptateurs. Comment êtes-vous arrivé à collaborer avec des dialoguistes ou des scénaristes? Parce qu'au début de votre carrière, vous faisiez presque tout vous-même.
Je faisais tout moi-même. J'ai toujours écrit moi-même les scénarios de tous les films muets que j'ai tournés. Et les scénarios des premiers films parlants, qui ont été des adaptations, je les ai faits moi-même, mais j'ai écrit les dialogues. Ainsi, j'ai écrit complètement David Golder, adapté d'Irène Némirovski. J'ai Les cinq gentlemen maudits, adapté du scénario d'André Reuze. J'ai écrit Le petit roi. J'ai écrit Poil de carotte. Je signais moi-même le scénario original, l'adaptation et les dialogues. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti le besoin de m'adjoindre des collaborateurs, surtout en ce qui concerne le dialogue. D'ailleurs, il y a une anecdote assez rigolote. À ce moment-là, j'étais chez Marcel Vandal et Delac, n'est-ce pas, le film d'art. Et je me souviens que Marcel Vandal m'incitait beaucoup à quitter ce splendide isolement dans lequel je voulais me tenir et à prendre des collaborateurs. Et il me disait, mais vous gagneriez à prendre un collaborateur. Mais moi, j'étais très fier, je ne voulais prendre personne. Je croyais que c'était me diminuer de collaborer avec quelqu'un. Par conséquent, j'avais eu une histoire assez curieuse avec M. Vandal. Comme il m'avait dit cela, un beau jour, comme il était parti en voyage, je lui téléphone que je venais de recevoir d'un soi-disant instituteur du côté de Bordeaux un scénario absolument ravissant que je le lui ai envoyé et que c'était absolument charmant qu'il fallait faire ce film. Et je lui disais tout le bien que j'en pensais. Marcel Vandal reçoit le scénario, le lit est enthousiasmé, me dit « Mais oui, c'est un film charmant, quelle idée délicieuse !» Et nous allons en parler quand je reviens à Paris. Il revient, nous en parlons, il n'avait ni avec ce scénario à la bouche, nous parlons de sa prochaine production, et il devait repartir le soir même pour le midi. Et alors, il monte dans le train, je l'accompagne au quai. Il monte dans le train démarre, et à ce moment-là, je lui dis, « Dites donc, vous savez, le scénario en question, c'est de moi !» Car l'instituteur, c'était moi.
Et le film, c'était quoi?
C'était un petit scénario bien anodin qui s'appelait « La Vénus du collège ».
Et que vous n'avez pas tourné, alors, finalement?
Que je n'ai pas tourné, et que Berthomieux, qui était alors mon régisseur, Berthomieux s'en est souvenu, et quelques années après, on a tiré un film, mais en le modifiant beaucoup. J'ai donc fait « Anna Karénine », après Panique, à la London Film, avec Vivian Leigh. Je voulais lui faire tourner, c'était d'ailleurs mon idée, c'était celle-là qui m'avait ramené en Angleterre à cette époque-là, je voulais lui faire tourner La Renarde. Je trouvais qu'elle était le petit personnage du roman de Mary Webb. Mais Vivian Leigh était absolument décidée à jouer une grande héroïne du répertoire et elle était hantée par le souvenir de Greta Garbo. Je ne fais aucune comparaison, car je crois que, comme comédienne, Vivian Leigh était supérieure à Greta Garbo et elle voulait tourner Anna Karénine. Elle l'a tournée. C'était un film heureux, je crois.
En effet. Et après,
mais elle n'était pas le personnage.
Non, elle n'était pas le personnage.
Elle n'était pas du tout le personnage.
Elle était Vivian Leigh.
Anna Karénine est une femme qui donne, tandis que Vivian Leigh est une personne qui prend. Eh bien. Après cela, mon Dieu, il y a eu toute une série de films. J'ai recommencé mon activité en France et puis elle a été incessante, comme elle a été incessante avant la guerre. Elle a été incessante depuis mon retour.
Et vous êtes redevenu
avec
parisien.
Avec des hauts, des bas, je suis redevenu
sous le ciel de Paris.
Sous le ciel de Paris, c'est exact. C'est un film que j'ai aimé beaucoup faire, qui nous a donné beaucoup de difficultés puisqu'il se passait presque totalement en extérieur et que nous sommes tombés sur le plus mauvais été que Paris ait jamais connu.
Malgré ça, l'atmosphère parisienne y était admirablement rendu.
Et la chanson a fait le tour du monde.
Ah, la chanson a été... Oui, je puis le dire. Et je cherchais d'ailleurs, c'est assez curieux cette façon dont j'ai trouvé cette chanson, je cherchais une chanson qui puisse à un moment être chantée dans le film et qui parle un peu de Paris. Et alors un beau jour, je tournais sur le quai de Bercy et je vois arriver deux jeunes gens, l'un portait un accordéon et l'autre avait les mains dans les poches. Ils me disent, vous cherchez une chanson pour votre film? Je dis oui, est-ce qu'on peut vous en chanter une? Je veux bien, mais... Oh, mais ça ne nous gêne pas. Et ici, sur le quai, ils m'ont chanté une chanson.
Et comment l'avait-il su que vous cherchiez une chanson?
Il l'avait appris parce que j'avais chez tous les éditeurs de musique, j'avais posé le problème. J'ai dit, adressez-vous à vos paroliers, à vos fournisseurs et demandez-leur une chanson. Et tout le monde y était passé. Je ne veux pas citer de nom pour ne pas faire de jaloux.
Oui, bien sûr.
Mais tout le monde y était passé. Je n'avais rien trouvé. Ces deux jeunes gens me chantent une chanson. Je dis, c'est pas ça que je veux. Je voudrais une chanson de telle manière. Voilà ce que je voudrais dans ce qu'on dise. Et ils me disent, bon, eh bien, où est-ce que vous tournez demain? On dit, demain, je crois que nous tournons dans le jardin des Tuileries. Bon, eh bien, demain, au jardin des Tuileries, on sera là.
Lendemain,
ils étaient là, dans le jardin des Tuileries, et ils m'ont chanté, et on l'a enregistré d'ailleurs immédiatement, cette chanson qui a fait le tour du monde et qu'on entend constamment, qui est sous le ciel de Paris, je ne me rappelle plus.
La musique est d'Hubert Giraud.
Hubert Giraud, qui jouait l'accordéon à ce moment-là, n'est-ce pas? Et de Dréjac, les paroles.
Très bien. Et après, ça a été votre grand succès de Don Camillo.
Oui, alors je peux dire un succès tout à fait inattendu. Voilà bien le mystère des productions cinématographiques, parce que vraiment, ce film, personne n'y croyait. Absolument personne. Personne n'y croyait, d'autant plus que je ne trouvais pas d'interprète pour jouer Don Camillo. Don Camillo était décrit par Guareschi, l'auteur du livre, comme un personnage puissant physiquement, n'est-ce pas? Et nous ne trouvions personne. Et les Italiens, avec qui j'avais l'intention de faire le film, avaient engagé Gino Cervi. Et quand j'ai vu M. Gino Cervi, que je ne connaissais pas, j'ai dit, c'est possible que M. Gino Cervi soit un bon acteur, mais moi, je voudrais bien avoir Fernandel. Quand j'ai dit ça, ça a été un tollé général. Personne ne voulait croire à Fernandel, et je me suis fait insulter à ce moment-là par le producteur du film en disant, mais enfin, vous ne savez pas ce qu'on va dire au Vatican, faire jouer un prêtre avec la gueule de Fernandel, c'est tout de même pas possible.
Et le Vatican n'a rien dit.
Le Vatican n'a rien dit, il s'est frotté les mains par la suite. et j'ai imposé Fernandel. Et il a été ce qu'on sait qu'il a été dans le film.
Évidemment, ça a été un succès mondial.
Ça a été un succès mondial inattendu, puisque même quand le film a été terminé et que je l'ai projeté pour la première fois à Paris, à mes collaborateurs, il y avait présents des producteurs avec qui j'avais beaucoup tourné et qui n'étaient pas dans le film, qui n'avaient pas voulu se mettre dans la combinaison du film à cause précisément de cette erreur que je commettais en prenant Fernandel. Ils sont venus voir le film et tous les deux m'ont dit en sortant, eh bien, c'est un film qui ne fera pas d'argent malheureusement.
Comme on peut se tromper.
Et puis alors je me suis embarqué sur l'esquive de la poésie, mon Dieu.
Vous aimez les contrastes.
Oui, parce que j'ai toujours cherché dans ma carrière. On m'a reproché d'ailleurs ma versatilité, on m'a dit « Duvivier n'a pas de style ». Je n'ai pas de style, j'ai le style des films que je tourne et j'ai toujours cherché à faire autre chose que ce que je venais de faire. C'est André Daven qui me dit un jour « Mais tu n'as pas lu dans le temps Douloureuse Arcadie ?» Je dis « Si, en effet, oui, Douloureuse Arcadie ». Je suis allé à la Malmaison, j'ai repêché Douloureuse Arcadie, je l'ai lu, et puis, dans les 48 heures, j'avais retrouvé d'une façon assez extraordinaire l'auteur Peter de Mandelson, qui est un Allemand, mais qui habitait l'Angleterre maintenant. Nous avons énormément souffert pour faire le film, mais quand je l'ai vu terminé, quand je l'ai regardé une fois fini, j'avais l'impression d'avoir réussi quelque chose, d'avoir réussi ce que je voulais faire et d'avoir réussi à apporter un petit peu de poésie à l'écran. Je me disais, au moins, les gens vont aimer ça. Peut-être ça rappellera leur jeunesse à beaucoup de gens et je crois tout de même que chacun se penche avec une certaine sympathie sur ses souvenirs de jeunesse. Et malheureusement, je me suis trompé. Le public ne m'a pas suivi et Marianne de ma jeunesse a été bien accueillie par ceux qui l'ont vu. Mais ils ont été peu de gens à le voir.
C'est fort regrettable, parce que vraiment, c'est un film étonnant.
Vous avez eu tout de même des approbations dans certains milieux, je crois, qui ont dû vous consoler de l'accueil un peu trop peu chaleureux du public.
Vous voulez dire...
qu'il y a des poètes qui, je crois, ont vu ce film et qui l'ont aimé.
Oui, en effet, j'étais très inquiet moi-même sur la valeur de ce que j'avais fait, et j'avais... pensais que Jean Cocteau pourrait me donner une indication, et avant de sortir le film en public, je lui ai montré un jour, dans une petite salle de projection, il est venu seul, et je l'ai laissé là, dans la salle de projection, je suis revenu à la fin, Et quand je suis entré, le film était terminé, Cocteau était assis, il ne bougeait pas. Et je me dis, il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas comment me dire qu'il s'est embêté. Il s'est retourné, il avait des larmes plein les yeux, il m'a sauté au cou, il m'a dit, Duvivier, je n'ai jamais été bouleversé comme ça. Et pendant une demi-heure, il m'a parlé de ce film.
Alors voilà qui a dû vous faire chaud au cœur.
Oui, ça m'a un petit peu rassuré, mais quelques temps après, je devais tout de même recevoir le coup de bambou que j'ai reçu.
Bon. Alors vous êtes revenu, une fois de plus, fidèlement à Fernandel.
Oui, je suis revenu à Fernandel, mais après avoir...
Car le film que vous venez de tourner est avec lui.
Oui, mais j'ai fait un autre film avant où j'ai dit, ah, vous ne voulez pas de la poésie? Eh bien, je vais vous donner du film noir. J'ai fait Voici le temps des assassins, qui était vraiment un film noir.
Tout autre genre, en effet.
Un film noir, très noir. Qui vous prouve que je suis exactement fidèle à mon désir de changer de genre. Et après le temps des assassins, je viens de faire maintenant un film comique. Bon.
Mais est-ce que ce besoin que vous avez de sauter d'un genre à un autre vient de ce que vous avez l'impression qu'en travaillant toujours dans le même sillon, vous vous fatigueriez?
Parce que je me fatigue extrêmement vite et parce que je suis un éternel inquiet.
Avez-vous des projets?
Moi, tous les metteurs en scène ont des projets. Tous ont des scénarios qui sont chers à leur cœur et qu'ils voudraient bien tourner. Mais malheureusement, ils n'en trouvent guère la possibilité la plupart du temps. Il y a un film que je voudrais faire qui s'appelle Tarandole, qui est un roman de René Barjavel, dont j'avais acquis les droits, et c'est ainsi que je suis entré en relation avec René Barjavel. Tarandole, qui est un roman d'amour absolument bouleversant, qui est paru il y a 5-6 ans, 7-8 ans, je crois. Et puis, au fond, j'ai un vieux projet, et on va dire que je radote, parce que, évidemment... Refaire pour une troisième fois un film, c'est vraiment avoir un petit peu trop d'insistance. Je voudrais refaire Poil de carotte. Mais oui, je voudrais refaire Poil de carotte. Je voudrais refaire Poil de carotte en couleur, non pas à cause des cheveux de l'enfant, mais parce que vraiment, c'est un sujet dans lequel la nature joue un tel rôle. C'est un sujet dans lequel je voudrais voir Gabin. Je voudrais faire de Gabin Monsieur Lepic. Je trouve qu'il serait un Monsieur Lepic absolument extraordinaire. Et je crois qu'il est arrivé à l'âge où il peut jouer ça. Les sentiments de Poil de carotte sont éternels. Jamais une histoire plus bouleversante n'a été écrite. Et vraiment, ce sera un de mes projets, celui que je vais poursuivre avec le plus d'insistance, refaire Poil de carotte.
La radiodiffusion télévision française vous a présenté Entretien avec Julien Duvivier, une émission de René Jeanne et Charles Forbes.
Les 4 derniers volets d'une série de 8 entretiens avec Julien Duvivier ont été diffusés les 13, 20, 27 mai et 3 juin 1957 sur la chaîne parisienne. Rappelons que 3 films restaurés par Pathé Films viennent de sortir en DVD et Blu-ray. La belle équipe avec ses 2 fins, l'optimiste et la pessimiste, Voici le temps des assassins et Le jour se lève. Vous pourrez réécouter cette série d'entretiens en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les nuits de France Culture.